France Culture.
Le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La psychiatrie ne doit plus être le parent pauvre de l'hôpital. Déclaration signée du ministre français de la Santé, lequel présentait hier son plan visant à mieux repérer et soigner les troubles psychiques en même temps que de rendre plus attractive la psychiatrie. On tâchera de savoir ce qu'en pensent les professionnels. On parlera aussi retraite avec notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication du rapport du corps. À suivre également les bons chiffres du marché de la production bio et puis l'actualité à l'étranger. Sont notamment ces discussions qui s'annoncent décidément de plus en plus compliquées entre Téhéran et Washington s'agissant du nucléaire iranien. Enfin, se rendra aux États-Unis où Donald Trump a été hué hier soir lors de la représentation des Misérables. Comment renforcer la psychiatrie et mieux prendre en charge les troubles psychiques 2 jours après le meurtre d'une assistante d'éducation par un adolescent en perte de repère atteint de troubles mentaux? La question relève forcément aujourd'hui d'une forme d'urgence que l'on aurait difficilement pu imaginer devoir se poser dans un contexte plus dramatique que celui-ci. Sans compter qu'avant même François Bayrou, déjà son prédécesseur Michel Barnier, avait dit vouloir faire en l'occurrence de la santé mentale une grande cause nationale. Le gouvernement a donc fini par dévoiler son plan hier. Marie-Aimée Coppeleutre, bonjour.
Bonjour.
Et le problème, c'est que d'ores et déjà, ces annonces ne suffiront pas à répondre aux besoins.
Le ministre de la Santé a annoncé la hausse du nombre de psychiatres formés en France, passé de 500 à 600 chaque année. Mesure appréciée des syndicats de psychiatres, mais inutile si rien n'est fait sur l'attractivité du métier. Aujourd'hui, en France, un peu plus de 10% des postes de psychiatres ne sont pas attribués, faute de candidats au concours. Michel Jurus, le président de la Fédération française de psychiatrie.
C'est une bonne chose de pouvoir augmenter le nombre d'internes en psychiatrie. Ce qui sera bien aussi, ça sera d'augmenter l'attractivité du métier. C'est peu attractif parce que globalement, tout a été poussé pour la productivité, donc on doit travailler de plus en plus vite, de plus en plus fort, etc. L'autre point également, c'est que ça fait partie des spécialités intellectuelles où on gagne le moins d'argent.
La consultation d'une demi-heure en psychiatrie est à 55 euros, beaucoup moins lucrative que des spécialités comme l'ophtalmologie ou la dermatologie qui peut rapporter plusieurs milliers d'euros par opération. Donner plus de temps également aux professionnels permettrait de renforcer son attrait, ajoute Michel Jurus.
L'autre point qui est important, c'est sans doute qu'il faudra favoriser la diversité de la pratique psychiatrique. C'est-à-dire que ces dernières années, tout est parti du côté de la psychiatrie universitaire, un peu élitiste, scientifique, on va dire, et que un des aspects importants et que réclament d'ailleurs beaucoup les internes, c'est l'aspect relationnel. C'est effectivement toutes ces choses qui, bien sûr, sont un peu plus coûteuses en temps, mais qui se font partie un peu de l'intérêt de la pratique.
Recruter de nouveaux professionnels essentiels car la profession est vieillissante. Un quart des 15 000 psychiatres en France ont plus de 65 ans.
Merci Marie-Aimée Coppeleutre. J'évoquais tout à l'heure le décès de cette surveillante de 31 ans tuée après avoir reçu 4 coups de couteau. Les cours ont repris ce matin au collège Françoise Dolto de Nogent et il y a à peine une demi-heure maintenant, en mémoire de Mélanie, une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires du pays. De son côté, le parquet de Dijon a requis aujourd'hui la mise en examen pour meurtre de son agresseur, un collégien de 14 ans dont les 2 jours de garde à vue auront dressé le portrait glaçant d'un adolescent fasciné par la violence.
Le gouvernement actuel, parmi lequel figurent pas moins de 22 ministres millionnaires, soit l'un des plus fortunés depuis 2017, verra-t-il l'instauration d'un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches?
La proposition de taxe dite Zucman, adoptée par l'Assemblée en février dernier à l'initiative des écologistes, doit être examinée cet après-midi au Sénat et nul doute que dans un contexte budgétaire alarmant, alors même que le gouvernement est toujours à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies pour construire son prochain budget, eh bien les débats de la Chambre haute seront particulièrement scrutés. Même le gouverneur de la Banque de France a dit souhaiter hier un effort de tous, à commencer par les plus favorisés, afin de ramener l'important déficit public sous les 3% du produit intérieur brut en 2029. Alors rappelons tout d'abord que cette proposition de loi prévoit l'application d'une contribution visant les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, ou dit autrement, ce dispositif extrêmement ciblé vise à s'assurer que les contribuables ultra riches payent au moins 2% de leur fortune en impôts, ce qui concernerait environ 1800 foyers et rapporteurs rapporterait environ 20 milliards par an, sauf que l'idée se heurte toujours à d'importantes barrières politiques, à l'image de son probable rejet en réalité par le Sénat où la majorité, une alliance droite-centriste qui soutient le gouvernement, entend voter en bloc contre cette initiative.
À quelques jours de la fin du conclave, censé arrondir les angles d'une réforme impopulaire, c'est le point de blocage entre partenaires sociaux, l'âge légal de départ à la retraite.
À l'issue d'une nouvelle réunion hier, aucun compromis n'a encore été trouvé, d'autant que la veille, le MEDEF a officialisé son refus de tout retour en arrière, sans pour autant d'ailleurs suggérer de solution pour que les entreprises contribuent au financement du retour à l'équilibre du système en 2030, soit l'objectif imposé par le Premier ministre François Bayrou. Et ce, alors qu'un déficit de 6,6 milliards d'euros s'annonce si aucune contre-mesure n'est prise. Autant dire que les syndicats sont assez logiquement vent debout, et c'était encore sans compter le rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié aujourd'hui, un texte élaboré par un économiste soutien d'Emmanuel Macron et qui, contrairement aux usages, ne se contente pas de lister les leviers possibles, mais flèche directement une option, en particulier le report de l'âge de départ à 66 ans et demi en 2070. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Michaël Zemmour, enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2, économiste au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Wafia Kenich du service économique de la rédaction. Bonjour Wafia.
Bonjour. Monsieur Zemmour, donc une fois encore, on est focalisé à la fois médias et politiques sur cet âge de départ. Est-ce que c'est le seul moyen d'arriver à réduire ce déficit du régime des retraites ?
Non, quand on lit le rapport du COR de cette année, ou en tout cas le projet de rapport, puisque le rapport n'est pas encore définitif, il y a toujours les trois mêmes leviers. L'âge de départ, le levier des cotisations ou des recettes, ou le levier du niveau des pensions. Et de ce point de vue-là, le diagnostic dressé par le rapport du COR est le même que chaque année. Notamment que les dépenses de retraite ne sont pas en dérapage. En fait, elles sont stabilisées sur le long terme, alors qu'on va avoir de plus en plus de retraités. Et elles sont stabilisées parce que les droits à la retraite diminuent. Et on a bien un déficit projeté qui arrive, mais le déficit est projeté uniquement parce qu'on a programmé une baisse des ressources. Et donc, parmi les leviers, une possibilité alternative pour ne pas augmenter encore l'âge de départ, ça serait de maintenir les ressources du système des retraites au niveau où elles sont actuellement.
Le MEDEF a semblé bouger un peu sur deux questions, hein, les carrières des femmes et les critères de pénibilité. Est-ce que ça répond aux difficultés actuelles rencontrées par les salariés, d'après vous ?
Alors, il faudrait regarder mesure par mesure. La pénibilité, il y a des dispositifs qui existent, qui avaient été instaurés par le gouvernement Hollande avec 8 critères de pénibilité, dont 4 avaient été supprimés par le gouvernement Macron. Il serait question d'en rétablir un certain nombre. C'est à la fois un dispositif utile, mais très en dessous des besoins. L'ordre de grandeur du nombre de départs en retraite chaque année, c'est 800 000 personnes. Et les personnes qui font valoir des droits au titre de ce compte pénibilité, c'est de l'ordre de 10 000 personnes. Donc, rajouter des critères, ça serait très bien. Mais ça concerne très peu de monde et ça met très longtemps à être effectif, puisqu'il faut accumuler des points de pénibilité au cours de votre carrière. Et donc, c'est des sujets réels, mais qui sont très en deçà des difficultés. On a quand même des professions entières dans lesquelles il est très difficile de se maintenir en emploi jusqu'à 62, voire 64 ans.
Mmh. Notamment, sur l'autre critère, sur les carrières des femmes, là-dessus, la réforme Borne adoptée en 2023, elle a pénalisé les femmes ?
Alors, elle les a pénalisées sur la question de l'âge de départ, puisque du fait de la prise en compte des enfants, l'immense majorité des femmes, qui, notamment salariées du privé, qui ont eu des enfants au cours de leur carrière, pouvaient, sous l'ancienne législation, partir à 62 ans pile, ou une large majorité. Et la réforme Borne, en mettant un âge minimum à 64 ans, a d'abord pénalisé les femmes. Elle avait introduit une compensation, qui est une compensation financière, en disant « si à 63 ans, vous aviez tous vos trimestres, vous pouvez toujours pas partir, mais quand vous partirez à la retraite, vous aurez 5% de bonus ». Et manifestement, c'est ce bonus que le MEDEF propose de remettre en cause en proposant un autre dispositif qui m'a l'air un peu moins favorable.
Justement, cette difficulté à arriver jusqu'à 62 ans, qui existe d'ores et déjà, là-dessus, est-ce que les propositions qui ont été faites récemment, soit par les partenaires sociaux, soit par les politiques, semblent répondre à cette difficulté ? Je pense aux inaptitudes, je pense au chômage des seniors.
Non, il y a vraiment un contournement du sujet, c'est-à-dire que c'était déjà le cas avec la réforme qui a passé l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, mais plus encore avec la nouvelle réforme. On a à peu près un tiers des personnes ouvrières, un peu moins, 25% des personnes employées, qui ne sont plus en emploi aux âges de 60, 61 ans, et qui ne vont pas retrouver d'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc on a un sas de précarité qui se creuse, et ce problème est pour l'instant pas pris en compte, et même contourné par les différentes discussions, notamment du conclave. Il pourrait être réglé soit par un réabaissement de l'âge de départ, soit par une prise en compte, mais massive, de professions particulières ou de situations particulières. Les personnes qui se voient reconnaître une invalidité peuvent partir dès l'âge de 62 ans, c'est l'innovation de la réforme de 2023, mais on a encore de très nombreux profils qui sont soit en maladie longue, soit au chômage, soit aux minima sociaux, dans cette période, et pour qui aucune réponse n'est apportée.
C'est très clair, merci beaucoup.
Merci Mickaël Zemmour, enseignant-chercheur donc à l'Université Lumière Lyon 2, économiste au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Ofia Kenich.
Comment se porte l'agriculture biologique française ?
Selon les chiffres 2024 de la filière publiés ce matin par l'agence du bio, la consommation repart à la hausse avec près de 15 milliards d'euros de bénéfices entre les dépenses des ménages, des restaurants et des exportations. En revanche, les surfaces agricoles consacrées au bio sont en baisse. Plus exactement, la filière a perdu près de 56 000 hectares, soit peu ou prou. La même chute d'ailleurs que l'année précédente. Alors comment expliquer ce paradoxe ? Je vous propose d'écouter le président de l'agence biologique Jean Verdier. Il répond à Emeline Bonavent.
À la minute, nous ne sommes pas encore au volume de 2019. Donc, on ne le contenait pas encore. Et il y a des départs à la retraite. Et d'autre part, il y a des gens qui, également, pour une partie, repassent en conventionnel. Il y en a 25 à 35% de gens qui disent « Nous voulons bien venir à devenir agriculteur, mais à une condition que ça puisse être fait en agriculture biologique. » Donc, vous voyez, il y a de l'espoir dans la jeunesse. Et cet engouement, on fait tout pour qu'il ne retombe pas et qu'on offre des débouchés, une sécurité à la fois économique pour ces futurs agriculteurs bio. Le consommateur, je crois, a retrouvé un peu de latitude au niveau de son porte-monnaie. Les produits bio ont été moins inflationnistes, donc ça rejoint une accessibilité. Et enfin, la qualité des produits bio, ben le consommateur a voulu les retrouver et vient les chercher dans les magasins spécialisés bio aujourd'hui. Donc, il y a à la fois l'offre et puis la motivation des consommateurs qui est de nouveau là.
Voilà, Jean Verdier, donc président de l'agence biologique, il répondait à Emeline Bonavent.
Midi passé de 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Les images sont aussi spectaculaires qu'effrayantes. Un appareil survolant une zone résidentielle avant d'être englouti dans un énorme nuage de fumée noire. Ce matin, un avion à destination de Londres s'est écrasé avec 242 personnes à bord au décollage de l'aéroport d'Ahmedabad au nord-ouest de l'Inde. Le Parlement israélien a finalement rejeté cette nuit à une courte majorité un projet de loi visant à renverser le gouvernement. L'ensemble des partis d'opposition qui avaient présenté le texte misaient sur une majorité a priori désunie au sein de la coalition au pouvoir, tout particulièrement sur la question de l'incorporation au nom de l'effort de guerre de davantage de juifs ultra-orthodoxes dans les rangs de l'armée, sauf qu'un accord a finalement pu être négocié en coulisses juste avant le vote avec les partis religieux pour les dissuader donc de sanctionner le Premier ministre. De leur côté, les quatre militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël seront expulsés aujourd'hui et demain. Quant à la question de savoir ce qui pourrait mettre fin au bain de sang à Gaza après le veto américain ayant empêché le Conseil de sécurité de réclamer un cessez-le-feu, l'Assemblée générale de l'ONU tentera aujourd'hui, sinon de convaincre, d'appeler Israël à respecter le droit international. En attendant, le ministère palestinien des télécommunications a lui affirmé ce matin que les réseaux de téléphonie et Internet étaient coupés dans l'ensemble de l'enclave en raison d'une attaque sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service, de quoi couper désormais complètement la bande de Gaza du monde extérieur.
C'est un chiffre vertigineux, presque abstrait, tant il est démesuré.
123 millions de personnes déplacées de force à travers le monde, c'est un tableau glaçant que dresse le dernier rapport du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en 2024. De Gaza au Soudan, de l'Ukraine à Haïti, les conflits, mais aussi les persécutions, bien encore les catastrophes, ont chassé des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de chez eux l'an dernier. Explication de Claude Guibal.
Pour bien comprendre, il faudrait s'imaginer un peuple fantôme, sans capital et sans frontières, le peuple des déplacés et des réfugiés. 123 millions de personnes sur Terre, l'équivalent de la population du Japon, une personne sur 67 à travers le monde obligée de fuir son foyer. 40% sont des enfants. Un record historique dont l'épicentre aujourd'hui se trouve au Soudan, qui connaît le plus grand déplacement de population au monde. Un Soudanais sur trois est déplacé. À Haïti, la violence des gangs a multiplié par 3 en un an le nombre de déplacés internes. Ils sont plus d'un million. Plus de 400 000 autres sont réfugiés à l'étranger ou demandeurs d'asile. Un asile désormais impossible aux États-Unis où Donald Trump a bloqué l'accès aux Haïtiens. Et puis il y a Gaza, où 90% de la population totale de l'enclave est déplacée, presque 2 millions de personnes plongées dans la terreur des bombardements, la faim, le manque de soins en raison du blocus israélien. Au milieu de cette tourmente, un des rares points positifs, la chute de Bachar al-Assad en Syrie a redonné un souffle d'espoir. Plus de 500 000 réfugiés sont revenus dans leur pays. Mais sans ressources et sans paix durable, ces retours restent précaires. La machine humanitaire est à bout de souffle, étranglée par des coupes budgétaires massives.
Après que Téhéran a menacé de frapper les bases américaines au Moyen-Orient, les États-Unis ont autorisé les familles des militaires présents dans la région à évacuer dans le même temps. Et selon des fuites orchestrées cette fois-ci dans la presse outre-Atlantique, Israël se préparerait à lancer une attaque contre la République islamique. Voilà Valérie Krova qui ne devrait pas faciliter donc les prochains pourparlers prévus dimanche sur le nucléaire iranien.
La République islamique se prépare à tous les scénarios en cas d'attaque israélienne. C'est ce qu'a fait savoir ce matin le chef des gardiens de la Révolution. Tandis que Donald Trump s'est dit moins confiant de parvenir à un accord avec l'Iran en vue de limiter sa capacité à développer des armes nucléaires. De part et d'autre, la pression est à son maximum, à la veille d'une nouvelle série de négociations qui se tiendra ce dimanche dans le Sultanat d'Oman, la sixième depuis le mois d'avril. L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer à Mascate le ministre des Affaires étrangères iranien. Comme une provocation, Téhéran a annoncé ce matin la construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires. Difficile de savoir dans quelle mesure Donald Trump tente de freiner le Premier ministre israélien dans sa volonté de frapper militairement l'Iran. Toujours est-il que l'inquiétude suscitée par une éventuelle frappe israélienne et la perspective de représailles de l'Iran ont conduit les États-Unis à retirer leurs diplomates d'Irak et à autoriser le départ volontaire des membres des familles de militaires américains installés au Moyen-Orient. Il s'agit essentiellement de Marines, basés à Bahreïn, où se trouve une importante base navale américaine.
Donald Trump hué hier soir au Kennedy Center de Washington.
Le président américain était venu assister avec sa femme à la représentation de la comédie musicale Les Misérables, une première depuis sa reprise en main très conservatrice de cette salle de spectacle prestigieuse, et ce en plein contexte qui plus est des manifestations à Los Angeles. Le couple, Virginie Pironon, a été chahuté à peine après s'être installé dans la loge présidentielle.
Des huées et quelques applaudissements. C'était la première fois hier soir depuis sa réélection que le président américain venait assister à un spectacle au Kennedy Center en tant que président du conseil d'administration de la prestigieuse salle de spectacle depuis sa reprise en main et le limogeage de la précédente équipe. Le président américain a assisté à la comédie musicale des Misérables. Un spectacle qu'il a vu un grand nombre de fois, comme il l'a encore répété hier soir en smoking, en foulant le tapis rouge. Mais dans le contexte des protestations de Los Angeles contre sa politique migratoire, alors qu'il a envoyé la garde nationale et les Marines, la soirée a pris un tour politique. Une partie des comédiens a boycotté le spectacle. Quelqu'un a crié parmi la foule « Un viva Los Angeles !» Car Les Misérables, c'est d'abord un spectacle qui célèbre un soulèvement populaire contre un despote. Or, Donald Trump a par exemple fait jouer certaines des chansons de la comédie musicale dans ses meetings, comme celle-ci. Do you hear the people sing? Traduction littérale, entends-tu le peuple chanter? En version française, la volonté du peuple. Appel au soulèvement populaire. Hier soir encore aux États-Unis, sur les plateaux télé, certains commentateurs se demandaient si Trump a ou pas bien saisi le message.
Merci Virginie Pironon. Enfin, comment ne pas citer une dernière fois le nom de celui qui avait non seulement composé la bande-son du mythe californien des années 60, mais plus encore de ses notes enjouées. À la sophistication de ses arrangements en studio avait porté la musique pop à son sommet. Brian Wilson, génial fondateur des Beach Boys, au destin aussi fabuleux que tragique, est décédé hier. Il était âgé de 82 ans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Sec et lumineux sur la majeure partie du territoire, malgré quelques orages localisés sur la Normandie, le bassin parisien, la Bourgogne et l'Auvergne. Quant aux températures, elles seront comprises entre 19 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Vicrobeck. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.